Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, le 14 mai 1998 à Saint-Jodard.
Deux petites questions. C'est-à-dire, elles iraient très loin si on voulait y répondre parfaitement. Pourquoi la causalité finale est-elle toujours liée à la gratuité? Je dirais, la suppression de la causalité finale supprime radicalement et donc progressivement la gratuité. Ce serait plus juste de poser la question comme ça. Il y a un lien de causalité entre la découverte de la causalité finale et la gratuité. Autrement dit, la seule causalité qui fonde la gratuité, c'est la causalité finale. Alors pourquoi? C'est parce que la découverte de la causalité finale se fait à l'intérieur de l'éveil de l'amour. S'il n'y a pas un amour spirituel à l'égard d'un bien personnel, ce qui est dans la découverte de la causalité finale, il ne peut pas y avoir de gratuité. La gratuité n'existe qu'au niveau d'un éveil d'un amour spirituel, donc d'un amour personnel à l'égard d'une personne, d'un bien personnel. La passion, l'amour passionnel n'éveille pas la gratuité. Éveille au contraire la possession. Et une possession individuelle. Et alors, on veut posséder le bien matériel. Et on sait que ce bien matériel, s'il est partagé entre si on est deux. Mais quand on est deux, c'est au moment d'héritage qu'on commence à montrer son égocentrisme. Si je tuais mon frère, je serais seul. Quand on est huit, il faut en tuer sept, c'est plus difficile. L'amour à l'égard d'un bien personnel, l'ami, implique un bien qui me dépasse. Que si je veux le posséder, je le détruis. M'offre. Et en m'offrant naît la gratuité. Je crois très important, vous voyez, aujourd'hui, de comprendre philosophiquement ce qu'est la gratuité. vérité intelligence. Puisque la vérité, c'est la qualité propre de l'intelligence. Toute intelligence bien faite cherche d'être vrai dans sa connaissance. Donc il n'y a pas d'opposition. C'est très vrai. Alors là, on retrouve ce qu'on avait commencé la dernière fois. C'est très vrai que dès qu'on parle de l'intelligence humaine, on distinguera l'acte d'intelligence, les divers actes d'intelligence. Appréhension, jugement. Et on distinguera l'intelligence de ce qui spécifie l'intelligence en analysant l'intelligence. Qu'est-ce qui spécifie l'appréhension? Qu'est-ce qui spécifie le jugement? Et on distingue l'aspect objectif. L'aspect subjectif. Tout ça, c'est l'analyse de ma connaissance intellectuelle, spirituelle. C'est une analyse. L'aspect subjectif de ma connaissance, c'est mon intelligence et toujours l'intelligence d'une personne humaine. Ce qu'il est intelligent. Vous n'avez jamais dit ça. Quand vous voyez le chat qui est agacé et qui veut vous griffer, toute griffe dehors, il y va, hein, avec des griffes qui sont bien faites, retournées vers le sujet. Pas extatique. Retournez vers les yeux. Avec un accaparement. Vous ne dites pas comme il est intelligent. Vous dites, ah, il a un instinct extraordinaire. Il accapare tout. Et ne mettez pas votre main. Parce que il arrachera. Première manifestation. Ce n'est pas la parole, c'est le sourire. Et dans la sculpture, quand vous êtes au musée d'Athènes, vous voyez le passage de la sculpture égyptienne à la sculpture grecque. Et le passage de la sculpture hiératique égyptienne et la sculpture humaine. sur le zinc, ne manifeste pas l'intelligence. Elle manifeste la grosse jouissance. Avec le sourire de l'enfant, de l'ange, du Christ sur la croix, l'intelligence. Oui, alors, découvrons notre intelligence. Réfléchissons sur notre intelligence. Toute la philosophie est faite pour que vous découvriez votre intelligence. Elle n'est pas faite premièrement pour ça. Elle est faite pour la découverte de la vérité. Et en second lieu, la conscience que vous avez de découvrir la vérité. Vous réfléchissez sur votre acte d'intelligence, sur l'éveil de votre intelligence. Et c'est très beau ça. Et sur l'éveil de l'intelligence de mon ami, de mon frère, de mon tout petit frère, l'enfant, qui commence à sourire dans la douceur et dans la violence, il ne découvre jamais le sourire. Un enfant qui est élevé dans la violence ne sourit. Assez vite ce qu'est la connaissance que nous avons de l'ami, de notre mère, de notre père. Curieux, la connaissance que nous avons quand nous réalisons quelque chose avec nos mains. Avec des outils, avec le feu, on découvre la connaissance affective et que la connaissance artistique. Et on découvre cette connaissance pratique qui ordonne un peu notre vie. Et vous distinguez tout de suite une connaissance qui est vraie. Une connaissance imaginative. La connaissance imaginative, je pars dans un rêve. Il n'y a plus de vérité. Je suis dans l'ordre des possibles. La connaissance vraie, c'est le contact que j'ai avec la réalité, avec l'ami. Avec le sourire du tout petit, avec l'ordre impératif que me donne mon père. Le premier ordre impératif que vous avez reçu, c'est pas commun de recevoir un ordre. Alors vous recevez l'intelligence pratique de celui qui a autorité sur vous. Et vous arrivez à distinguer ce qui détermine votre connaissance, son aspect objectif. Jusqu'à la réalité. Je peux différente. Une idée que je me suis fait de la réalité. Mon intelligence devient cause formelle de la réalité. Une intelligence qui veut être conforme à la réalité pour être vraie. Et la réalité existante qui est mesure de mon intelligence. Elle a déterminé mon intelligence et elle en devient la mesure pour voir que ce que je dis est conforme à la réalité. Parce que il y a toujours le danger de l'invasion imaginative. Je cherche ce qu'est l'acte. Hein? Nous avons tous cherché ce qu'est l'acte. Et comme c'est très difficile à saisir, je confonds l'acte et la réalité. Alors, la réalité, c'est mon ami. C'est vrai, c'est la meilleure des réalités. C'est mon ami. Mais mon ami n'est pas l'acte. Il est une réalité. Res, il est une réalité. Mais il a des défauts. Je ne croyais pas si brutal. Il a des défauts. Il est lourd. Il grossit. Il s'épaissit. Je l'ai laissé vagabonder. Il a vagabondé. Il n'a plus eu ce souci de vérité. Il a pris tout. Comme quelque chose qu'il pouvait se nourrir, qu'il pouvait prendre. Et j'arrive à dire, il y a en lui quelque chose qui n'est plus mon ami. Il est bouffi de toutes les arrive à manipuler la mentalité des gens. naissance qui peut être créatrice. Dieu crée à partir de sa sagesse. Et sa sagesse est mesure de la réalité. Donc en Dieu, l'ontologisme est vrai, mais pas en moi. Et c'est le propre de la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, connaissance de sagesse, est source de la réalité et mesure de la réalité. Ce que Dieu pense est source de la réalité, s'il le veut. Et c'est comme ça que les théologiens distinguent en Dieu une connaissance purement spéculative et une connaissance pratique. Parce que Dieu veut créer. Alors à ce moment-là, ce qu'il a saisi dans sa sagesse est source de la réalité. Et c'est ce qu'on appelle les idées divines. Oui, il y a là un domaine de recherche qui est extraordinairement important. La distinction entre la vérité formelle et la vérité ontologique. Le dépassement de cette distinction en Dieu. Mais en Dieu, on redécouvre différents moments de ce dépassement. Dieu, en se connaissant, connaît la réalité la plus parfaite qui soit. Il est la vérité première. Il est une intelligence subsistante. Et sa pensée est une sagesse. Où Dieu, dans son intelligence, est mesure de la réalité suprême. Et Dieu peut, à partir de sa connaissance, créer. S'il le veut, à partir de son amour. Mais il faut nous arrêter à cette distinction de la vérité formelle qui qualifie mon intelligence. Quand je vous dis ce que je vous dis là, c'est la vérité. La distinction entre la vérité formelle et la vérité ontologique. Ce que vous pensez, vous, en tant qu'homme, n'est pas une pensée créatrice. L'artiste, en réalisant un Moïse, ne peut pas frapper sur ses pieds en disant « Maintenant, vis !» Simplement dire, cette statue est belle, mais elle n'est pas la vie. Elle est une œuvre d'art. Et je ne suis pas le maître de la vie. Je peux regarder la statue que j'ai faite et déclarer qu'elle est belle. C'est extraordinaire. exactement ce que je voulais faire. Et c'est beau. C'est grand. Mais tout homme intelligent qui a du goût dira, elle est belle. Et ce ne sera que l'insensé et l'imbécile qui dira qu'elle est laide. L'artiste peut dire ça. Il a une objectivité comme artiste qui sait ce qui est beau. On disait que Picasso jugeait très durement ses œuvres. Et quand il faisait quelque chose qui était beau, il le gardait. Quand il faisait quelque chose qu'il jugeait médiocre, il le vendait. C'est une charité artistique bien placée. Ce qui m'intéresse, c'est de garder les œuvres belles. En tant qu'artiste, il a le droit de faire ça. En tant qu'homme, c'est différent. En tant qu'artiste, il avait parfaitement le droit de dire « Je ne vends que ce que je juge médiocre. » Le médiocre de Picasso était déjà supérieur à beaucoup d'autres œuvres d'art. L'artiste a conscience de sa valeur en tant qu'artiste. Parce que l'intelligence dans son développement de la vérité est consciente. Le philosophe est conscient que ce qu'il dit est vrai. Il est conscient que ce que tel autre philosophe peut dire n'est pas vrai. Mais en tant qu'homme, il doit rester dans l'humilité. Pas commode. Alors, la distinction entre le vrai ontologique et le vrai formel qualifie sa connaissance, son jugement, est une distinction extrêmement importante au point de vue philosophique. Parce que je vois à ce moment-là comment le vrai formel a une qualité spirituelle, intellectuelle, qui est supérieure au vrai. L'expérience de Dieu, je saurais qu'en Dieu, le vrai ontologique et le vrai formel est identique, mais à l'égard de toutes les autres réalités, le vrai formel sur le vrai ontologique, et que le vrai ontologique est toujours limité. Autrement dit, en connaissant les réalités existantes, toutes les réalités existantes, je peux expérimenter. Je veux dire, en les connaissant d'une connaissance métaphysique, je leur donne une noblesse. mesure de la réalité. Considérer comme le péché le plus grand de se faire. de si grand dans cette comparaison du vrai formel et du vrai ontologique. Je ne puis pas me séparer du vrai ontologique qui reste mesure pour moi de la vérité. Mon vrai ontologique reste mesure pour moi de toute recherche de vérité. Si séduisant que puisse être la vérité ontologique, et c'est là où je vois comment la vérité formelle, mathématique, qui se coupe, qui se sépare du vrai ontologique, est source pour moi constamment d'une séduction et d'une séduction extrêmement forte dans laquelle le monde d'aujourd'hui s'est laissé prendre. Et je dois, en tant que philosophe, dénoncer ça. Et je dois revenir constamment à ce primat du vrai ontologique qui peut seul me permettre d'affirmer et de découvrir un être premier. Mesurer.